Alors, Bezrat Hashem, nous terminons aujourd'hui le cours. Je vous ai photocopié juste la dernière feuille. C'est la même feuille que vous aviez la dernière fois, mais seulement j'ai repris juste le dernier passage. Notre sujet, c'est la sortie d'Égypte, mais la sortie d'Égypte pas dans son degré premier, c'est-à-dire pas l'Égypte en tant que telle, mais tout ce que représentent en fait les exils qui s'appellent d'une manière collective l'Égypte. L'Égypte donc représente en fait toutes les nations. Les nations, c'est l'Égypte. Alors l'exemple sortie d'Égypte va se répercuter sur notre histoire. Et aujourd'hui, les enfants d'Israël doivent sortir encore de leur Égypte actuelle. Donc chacun selon le pays où il se trouve, une prise de conscience doit être prise. Malheureusement, c'est difficile. Beaucoup de gens tombent dans la plaie des ténèbres et ne comprennent pas que le réveil est important. Et c'est ce qui fait en fait que l'exil continue alors que cet exil est déjà terminé. Donc, il y a des gens qui poursuivent leur exil, qui maintiennent leur état d'exilé, comme s'ils avaient pris l'habitude de cet état, qu'ils ont du mal à passer à une autre étape, à grandir, à se prendre en responsabilité, à vivre en tant que nation, et ils continuent à vivre en tant que détail, en tant que juif individuel, et bien souvent même religieux. Donc la religion a tué en fait la notion de nation d'Israël. Il faut être très très dangereux, il faut faire très attention avec ce degré-là donc de religiosité, lorsque ce degré-là en fait est dépourvu de nation, dépourvu de la nation d'Israël, du nationalisme israélien, et de tout ce que ça comporte. Lorsque nous oublions ce degré-là, eh bien, les nations du monde viennent nous le rappeler. C'est pourquoi ceux qui étaient en fait antisémites avant deviennent anti-israéliens maintenant. Anti-sionistes, c'est la même chose. Ça veut dire que c'est exactement le même problème qui a continué, qui a évolué sous une autre forme, avec d'autres noms, mais le problème est toujours le même. Et à quoi ça sert? À ce que nous sachions que nous devons savoir notre identité. Et lorsque nous présentons en tant que peuple, c'est là où on dérange. Lorsqu'on se présente en tant qu'individu, on ne dérange pas beaucoup, on se cache, on rase les murs un petit peu dans les pays dans lesquels nous sommes, et on ne fait pas beaucoup de bruit. Mais lorsque Israël devient une nation, eh bien ça commence à déranger, parce que même les juifs individuels commencent à lever la tête. Ça veut dire que si aujourd'hui un homme comme les philosophes nouveaux en France, par exemple, peuvent parler, c'est parce qu'il y a l'État d'Israël. S'il n'y avait pas l'État d'Israël, on n'aurait même pas laissé la parole à ces gens-là. Donc toute leur force en fait de parole, c'est pas parce qu'ils sont philosophes ou que les gens les respectent. Ils respectent parce qu'ils sont en réalité dans leur tête, dans le subconscient, reliés à la nation d'Israël. Et c'est cette nation qui leur donne un dos, qui leur donne une assise et un degré qui leur permet d'ouvrir la bouche. On est arrivé à la partie « Ador Hazeh ou Dor HaGeoula » à peu près à la 15e ligne, 12e, 13e ligne. « Ador Hazeh ou Dor HaGeoula » Donc notre génération est la génération donc de la délivrance. « Geoula » c'est retrouver en fait l'unité dans la dispersion, revenir vers l'essence. « Gaal » c'est les mêmes lettres que « Gola » sauf que le « He » de « Gola » est devenu « Aleph » de « Geoula ». On a gagné en fait l'unité, le Aleph représentant l'unité, alors que la lettre He représente le dispersement, okay? La dispersion. Ça veut dire que lorsque la dispersion gagne, alors il y a la lettre He. Lorsque l'unité gagne, il y a l'unité, c'est le Aleph, c'est la Geoula. Ce que dit le Maharal dans Netzach Israël, donc les quatre vents avec leur totalité, ça représente en fait la lettre He. Alors que l'unité représente la lettre Aleph, donc Geoula, c'est galer, dévoiler le Aleph. Geoula, galer Aleph, dévoiler l'unité. I Am Israël, Hazeh Shenim Tzapo. Et où elle se trouve cette Geoula? Comment est-ce qu'on peut la voir? Okay? Mais tout simplement, c'est le peuple d'Israël qui se trouve ici, en Eretz Israël. C'est le peuple qui est en train de vivre déjà cette délivrance, Imkol Tachalua, avec toutes ses maladies, ou Doroshel Mashiach, bien qu'il soit avec toutes ses maladies, avec tous ses maux, M-A-U-X, eh bien, ce n'est rien d'autre que la génération messianique. C'est pour ça que je dis que c'est une forme de maladie, mais en réalité, ce ne sont plus des maladies, ce sont des problèmes, ce sont des crises qui permettent au malade de sortir de sa maladie. Je vais expliquer ça avec d'autres manières. Quand quelqu'un est malade, on lui donne des médicaments. Mais à la fin de sa maladie, il faut le sevrer de ses médicaments. Parce que son corps s'est habitué aux médicaments qui le protègent. Donc il va falloir maintenant arrêter ces médicaments. Et parfois il y a des médicaments pour calmer l'effet des premiers médicaments. Mais c'est exactement la même chose. Les premiers médicaments de l'exil, il faut se soigner de ces médicaments-là. Donc on est sorti d'exil. La sortie d'exil, maintenant il faut se sevrer de ce désert. Il faut se sevrer de cet exil parce que l'influence est tellement restée, incrustée, imprégnée en nous que malheureusement nous avons du mal à nous séparer de cet exil. Comme disent plus d'un de nos sages, il ne suffit pas de sortir de l'exil, il faut se poser la question, est-ce que l'exil est sorti de nous? Alors, vous êtes sorti de l'exil, vous êtes ici en Eretz Israël, mais combien de temps ça prend pour que l'exil vous quitte? Et ça, c'est la deuxième partie. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les maladies. Cette maladie, en réalité, qui n'en est plus une, puisque nous sommes en voie de guérison, sauf que les boutons apparaissent, la maladie n'est plus contagieuse, mais ce n'est pas très agréable à voir. Et c'est ce qui se passe en réalité en Eretz Israël, c'est que les boutons sortent, donc c'est pas très agréable à voir, mais la maladie n'est plus contagieuse. Contrairement à ce que nous avions en exil, on ne voyait pas de boutons, mais la maladie était contagieuse et nous avons perdu 80% de notre peuple. Okay. Et c'est un problème très grave. S'il n'y avait pas tous ces pogroms et tous ces guerres contre le peuple d'Israël, nous serions aujourd'hui, d'après les comptes, 200 et quelques millions. Okay. Donc nous avons été presque complètement écrasés, annulés de l'existence, si ce n'est qu'Akadosh Baruch Hu a prévu ce peuple, et donc ce peuple ne peut pas disparaître, donc l'élément restant va avec lui faire pousser la nouvelle délivrance. La dernière délivrance, qui en réalité est la suite, la continuité de la première. On appelle ça l'os du louz. Vous savez que le Motsaï Shabbat, quand vous faites la Havdalah, vous prenez du vin, vous avez l'habitude de vous mettre un petit peu de vin derrière la nuque. Et lorsque vous mangez après Seouda Revi'it, c'est important de faire une Seouda Revi'it après Shabbat, c'est la Seouda de David Amelech. Les sages nous disent, et le Shulchan Aruch, Mishnah Brura, nous explique qu'il y a un os qui se nourrit de cette Seouda-là. Un os qui s'appelle le Louz, ou le Naskoy, deux noms que donne la Mishnah Brura, et qui en réalité porte en fait la tête. C'est celui qui est l'axe de toute la boîte crânienne. Donc cet os-là, en fait, c'est celui qui reste et qui ne se détruit jamais. C'est-à-dire même lorsque la personne est morte, que tous ses os ont été décomposés, il reste ce naskoï, ce petit os-là. Ce petit os-là est la preuve que la résurrection des morts va se faire à partir de lui. Comme ça disait le sage, la rosée de la résurrection des morts va commencer par ce petit os qui n'a pas disparu, on ne peut pas détruire, et avec lui on va reconstruire le corps tout entier et la neshama va revenir. Ça c'est cet os au niveau physique de l'homme, existe aussi au niveau territorial. C'est le Kotel Amaravi. Okay? Le Kotel, c'est l'os du Louz de tout le temple qui a été détruit, qui est mort. Donc cet os, ce dernier os qui est resté, par lui va recommencer la reconstruction du troisième temple. C'est pour ça que nous sommes attachés au Kotel. Okay? C'est le dernier souvenir de ce qu'il va y avoir. Je parle d'un souvenir dans le futur parce que c'est comme ça qu'on marche dans le judaïsme. Donc nous avons une répercussion sur le futur et c'est de cet os-là, de ce kotel, que tout va remonter. C'est pour ça que le kotel ne peut pas être détruit, ne sera jamais détruit, n'a jamais été détruit. Personne ne peut venir à bout de ce kotel-là. Il a une force parce qu'il représente en fait ce louz. C'est exactement le même, du même ordre d'idées, le même ordre de degré. Donc, Gamitoch Hachol Itgalé Hakodesh, nous avons vu que le Chol va être la base sur laquelle va se poser le Kodesh. Comme dit le Rav Kook dans Orot HaTshuva au chapitre 17, Ki Ruach Hakodesh Medaber Bekneset Israël, car l'esprit du Saint béni soit-il parle à travers l'Assemblée d'Israël. Autrement dit, l'Assemblée d'Israël, c'est le prophète de la génération. Nous sommes dans notre totalité comme une prophétie. Et nous sommes en train de gagner le savoir, la prise de conscience de ce degré que nous sommes, c'est-à-dire une nation et pas seulement un ensemble d'individus. C'est ce qui est en train de remonter à la surface, et les nations du monde, Baruch HaShem, font des efforts pour nous aider, car elles nous mettent écartés de tous les autres pour qu'on prenne conscience que nous sommes différents. Donc elles nous aident en fait, en voulant nous faire du mal, elles nous font du bien, elles nous mettent à part entière pour que nous, entre nous, nous sachions exactement qui nous sommes, et nous sommes en train de prendre conscience, Baruch HaShem, les gens se réveillent, de savoir exactement face à qui nous avons affaire, qui nous avons en face de nous. Et donc nous devenons en fait prophètes, parce que cette Knesset Israël, cette Assemblée d'Israël, a un degré très très élaboré depuis sa création. Elle a été créée avec un degré extraordinaire, et c'est de lui que nous puisons la capacité d'être prophète. Ben Cheikh Khayav, Ken. Nahon, c'est pour ça que je ne parle pas au niveau individuel. Je parle au niveau du collectif du peuple. Tu as raison qu'au niveau individuel, il reste encore quelques résidus, mais les choses se soignent au fur et à mesure. Au niveau collectif, la nation d'Israël est en train de se soigner. Okay. Alors, nous avons vu que le papillon, avant de devenir papillon, il était une larve, et cette larve, en fait, grossissait, explosait littéralement, parce qu'elle mangeait, elle ne s'occupait que de se nourrir, et elle passait, en fait, 5 fois ce processus de destruction totale et de reconstruction avec un changement de peau continuel. Betkufa zohu tove saviv atzmo roved dag shel kurim. Donc dans cette période-là où il se reforme une nouvelle peau, il tisse autour de lui une pellicule très fine de fils, comme des toiles d'araignée, comme une toile d'araignée. Et si vous voyez de temps en temps, vous ne savez pas, peut-être que c'est une larve de papillon, vous pouvez le voir sur une feuille d'un arbre, d'un arbuste, vous pouvez voir un genre de tissage avec un cocon collé à la feuille. C'est un papillon qui est en voie de devenir un papillon. Pour l'instant, il est en train de passer tous ces processus que nous sommes en train de développer ici. Et donc, il s'attache à une feuille. Et à ce moment-là, il ne mange plus. Il ne se développe plus. Là, c'est carrément une mort. Celui qui regarde, il voit qu'il n'y a aucun développement, aucun changement. C'est comme si le papillon était en train de mourir. Et donc, celui qui ne comprend pas l'histoire, il va se dire, c'est tout ce qu'il a fait, c'est dommage, ça a été pour rien. Okay? Il a séché, là, il est mort, il n'y a plus rien qui se passe. Vous comprenez bien le parallèle? Nous avons des périodes dans notre retour où il ne se passera rien. On va avoir l'impression que la Géoula n'avance pas, on est en train de sécher. On s'est collé à une feuille, on s'est collé à un sujet, et on a l'impression que c'est ce sujet notre vie, mais en réalité, on n'a aucun développement, rien du tout, et on est en train de mourir tout doucement. Il n'en est rien, c'est faux. Quel ? Ma ? C'est une apparence, il ne se passe rien en apparence, mais il se passe toujours quelque chose dans le fond. Alors, il se peut que, de temps en temps, tu crois qu'il ne se passe rien. C'est-à-dire que, bon, pendant 1 mois, 2 mois, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Tu te dis, bon, il n'y a pas eu... Je ne vois pas. C'est exactement comme la biche, puisque la Géoula est comparée à la biche, qui, lorsqu'elle se sauve dans les montagnes, de temps en temps, tu la vois, de temps en temps, tu ne la vois pas. Alors, le Mashiach est comparé à cette biche. De temps en temps, on voit un processus messianique, on le sent. Et de temps en temps, on ne sent rien. Alors on se dit, bon, peut-être on s'est trompé, il ne se passe rien. Chouf Choseroule Achar Zman Katsar les Achal Shemarbel Echol. Et ce qui est très bizarre dans ce papillon, c'est qu'après tout le processus qui normalement devrait donner un papillon, il redevient un ver. Vous saviez ça? C'est-à-dire qu'il y a une période où son développement ne va pas toujours dans la même direction. C'est comme s'il redevenait un ver à soie. Encore une fois, celui qui ne comprend pas ce processus, scientifiquement parlant, il va se dire j'ai raté un épisode ou alors je ne comprends plus rien. Okay. On est allé vers une ascension, maintenant on est en train de régresser. Et qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, il revient à de la nourriture. Nourriture, nourriture, nourriture. Je reviens à notre parallèle. Lorsqu'on revient dans cette Géoula, on commence par de la nourriture, par un système de développement et de protection, vous vous rappelez? Mais après, on a l'impression qu'on va avancer vers quelque chose. On sent des signes qui nous font dire que nous sommes en train de changer. Et puis, quelques temps après, on redevient encore une fois celui qui ne pense qu'à manger, à remplir son ventre. Donc les gens qui sont un petit peu déprimés, dépressifs, se disent, bon, il vaut mieux sauter par l'immeuble. Ce peuple d'Israël, il va faire des yo-yo, aller-retour, il ne va jamais se développer véritablement, puisque nous sommes en train de perdre notre temps, et la Géoula n'aura jamais lieu. Et vous entendez souvent des paroles comme ça, il n'y aura jamais de Géoula, de toute façon tu vois la génération dans laquelle nous sommes, regarde la déprime totale, tout va mal, comment tu veux que le Mashiach vienne dans une condition pareille? Vous entendez souvent ce degré-là, ça ce sont les gens qui sortent du cinéma juste avant le meilleur moment. Ils sortent de la salle et le film les a ennuyés, ils n'ont pas compris encore que le film est en train de commencer maintenant, et donc ils ont raté le meilleur, et ils attendent à la sortie, quand les gens sortent du film et qu'ils les voient émerveillés, ils leur disent « mais c'était quoi, c'était un film qui ne valait rien ?» Ils disent « mais non, tu es sorti juste lorsqu'il ne fallait pas. » C'est la même chose, il y a des gens malheureusement qui vont rater cet épisode-là, parce qu'ils sont trop pressés, parce qu'ils sont oppressés, et parce que la Géoula, telle qu'elle se présente, ne correspond pas à ce qu'ils ont eu dans l'idée qu'elle doit être. Malheureusement, nous avons trop d'idées par rapport à la Géoula, préconçues, et on refuse la Géoula telle qu'Akadosh Baruch Hu, lui, décide de la faire, comme si nous savions plus que lui comment gérer sa Géoula. Et on lui dit, Akadosh Baruch Hu, tu es bien gentil, mais c'est pas comme ça que j'ai appris à la Yeshiva. Donc apparemment, c'est pas toi le bon Dieu, et c'est pas la Géoula. C'est exactement ce qu'on dit, malheureusement, sous d'autres termes. Je suis obligé de faire une caricature pour vous mettre en relief les choses. Achar kach over hu diapoza. La phase suivante s'appelle une diapose. Afsakat betalich gidulo, c'est-à-dire tout s'arrête. Il y a un arrêt total de toute la croissance. Ke'en sheina, comme un grand sommeil. Un grand sommeil pour celui qui sait, mais celui qui ne sait pas, c'est la mort. Un grand sommeil, choref d'hiver, une hibernation, et tsel ba'ala chaim, chez tous les animaux, chez beaucoup d'animaux, ça se passe. Akol mesubach meod. Donc vous voyez, conclusion, tout est très compliqué. Aval kachu aseder shelit patrut aparpar, mais c'est ainsi qu'Akadosh Baruch Hu a décidé de faire développer son papillon, et en réalité, de faire développer sa geoula, puisque nous parlons de la même chose. Ve Israël, domimlo, donc Israël qui ressemble à ce développement, et de la même manière, très compliqué est leur chemin, très compliqué est l'évolution de ce chemin pour arriver à cette délivrance. Achareya itnashlut achamishit. On arrive au niveau scientifique après la cinquième fois où le zachal, cette larve, perd sa peau. Kulam kvar metzapim leofat aparpar. Et là, tout le monde se dit, ça y est, c'est fini quoi. Cinq fois, gamarnu. Le papillon doit apparaître. On attend tous. Kan mofia shlav akashe mikol. Et là apparaît quelque chose encore plus difficile de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Itgalmut. Qu'est-ce que c'est la itgalmut? Tout redevient golem. Golem, ça veut dire pire que le sommeil de la dernière fois, que l'impression que c'est devenu un objet inerte. Il n'a plus aucun fonctionnement. Tu peux le regarder, il ne bouge plus. Il n'y a plus aucune vie apparemment. A kol nasog leachor, tout est revenu, tout a reculé. A golem mitkatser, il redevient petit d'ailleurs, comme si le temps était en train de le faire disparaître. Dans deux ou trois jours, tu ne le verras plus. Mishkalo yored, son poids est en train de diminuer, parce que tu te dis qu'il est en train de se vider, donc de son contenu, il n'y a plus rien. Yored ou me'av mitrokni, mais même de l'intérieur, il est en train de se vider. Ses intestins sont en train de se vider complètement. Alors, où est la Géoula, Rabotai? La Géoula, elle est en train de prendre un coup dans l'aile. C'est exactement le même degré. Ça veut dire que celui qui regarde cette phase-là, qui est la dernière, qui est très proche du papillon, eh bien, elle est complètement dans le noir total. Ça ressemble à quoi? Eh bien, à la plaie des ténèbres avant la sortie d'Égypte. Normalement, si on va vers la sortie d'Égypte, chaque jour doit être un petit peu plus clair. Eh bien, pas du tout. Plus on avance dans les 10 plaies d'Égypte, plus on tombe dans le noir. Jusqu'à la 9e plaie où on est complètement dans le noir, alors que c'est une plaie avant la Géoula. Et donc les gens qui sont un petit peu dépressifs, dans la plaie des ténèbres, ils se laissent mourir. Et d'ailleurs, 80% se sont laissés mourir dans cette plaie des ténèbres. Ken? Tout à fait. C'est ça. C'est un noir de vision. C'est un manque de savoir-voir. C'est que tes yeux ne marchent pas comme il faut. Toi, tu me dis que les choses marchent de mieux en mieux. Demande aux gens s'ils voient la même chose. C'est pas évident. Ça, c'est quand tu donnes des cours et que tu réveilles la chose. Et que tu mets les choses dans leur réalité et tu dis aux gens, mais venons, faisons le calcul. Mais au niveau de leur ressenti, ils ont l'impression qu'on recule. Il y a des gens qui sont complètement affolés comme si on était. Je suis obligé de leur dire, je prends des cas personnels, tu veux me dire qu'on est exactement pareil qu'il y a 60 ans, en train de raser les murs à Auschwitz? Alors ils se disent, non, quand même pas. Il faut leur mettre les mots pour qu'ils comprennent qu'il s'est passé quelque chose d'énorme et que ça avance. Alors toi, tu le vois parce que tu as la chance de faire un métier qui te fait toucher, en fait, dans cette avancée malgré toi. Mais les gens, et même les religieux, parmi ces gens-là, ne voient pas cette évolution. Pour eux, si ça n'avance pas au niveau, entre guillemets, religieux, il n'y a rien qui s'est fait jusqu'à maintenant. S'il y a encore des chilonimes dans ce pays qui gèrent encore ce pays, il n'y a pas de Géoula. D'accord, mais ça, il faut leur dire encore avec des mots. C'est très difficile à contenir et à garder dans l'esprit. Okay? Regarde les gens qui râlent. Est-ce que vous avez votre corps qui marche plus souvent, au niveau du temps, plutôt qu'il est malade plus souvent? Il est malade plus souvent? Pas du tout. Non. La plupart des gens, ils sont beaucoup plus sains que malades. Les gens, d'une manière générale. Okay? Les gens sont généralement en bonne santé. Mais quand tu les écoutes, ils sont tout le temps en train de râler. Tout le temps, quelque chose ne va pas. Pourquoi? Alors, tu t'assois avec ce bonhomme-là, tu lui fais la feuille de ce qui va bien. Il a même du mal à accepter que ça aille bien. Il est tombé dans un système où il est obligé que ça aille mal. Et il est obligé de dire que ça va mal. Et quand tu lui dis ça va, il te dit, ouais, ça va. Il y a des gens comme ça. J'avais un copain. Tous les matins, je savais sa réponse. Je lui dis, comment ça va? Il dit, je suis crevé. Toujours pareil. Et quand je lui disais, tu es crevé? Il me dit, je t'en parle pas. Et je voulais l'aider pour lui faire montrer qu'il est tout le temps crevé. Okay. Finalement, c'était un homme qui a grandi tout le temps crevé. Il est resté crevé. Ça veut dire que c'est un homme qui n'arrive pas à évoluer dans sa vie, malheureusement. Parce que tous les jours que tu lui demandes si ça va bien, jamais il te dit oui, Baruch Hashem. C'est toujours, je ne peux plus, ça ne va pas. Et jamais quelque chose va. Jamais. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Moralité, c'est une mentalité. C'est une mentalité de tout va mal. Et il y a une mentalité comme ça, même au niveau global, où on voit ce qui est mal. Malheureusement, les journalistes nous aident beaucoup, parce qu'un bon journaliste, c'est un journaliste qui parle que du mal. Jamais il va faire une émission sur ce qui va bien. Toujours sur les défauts, toujours sur un type qui a tué un autre, jamais sur un type qui a enlacé son copain. Non. Il n'y a pas d'émission sur ça. Mais s'il y a un meurtre, tout le monde saute. Ça veut dire qu'en réalité, les médias sont là pour aider l'homme à tomber dans une déprime. En Europe, beaucoup de causes de la déprime au niveau même financier, c'est parce que tous les matins, ils se réveillent, Boker Tov, la récession est toujours là. Ah, dommage, je voulais gaspiller 100 euros, je les garde. C'est ça que ça fait aux gens. Ça veut dire que tu les maintient dans un système de tout va mal. Donc gardez votre argent, ne sortez pas, ne gaspillez pas, ne vivez pas, soyez dans la déprime, faites la gueule et tout ira mal. C'est un système à développer. Okay? Et chacun choisit comme ça. Pourquoi être joyeux quand on peut être triste? Alors, avançons dans la tristesse. Alors, il y a fait mode. Alors, ça dépend où tu es. Ok. Mais un golem, ça ne bouge pas non plus. Ça ne vit pas non plus. Ce n'est pas dans un état de vie. C'est un passage. Ce n'est pas une idéologie. Bien fait. Alors, on est d'accord que c'est un passage. Mais si tu prends ça comme un modèle de vie, là, ça ne va pas. Alors, tu as raison, on est dans un passage. On peut passer ce passage plusieurs fois dans notre Géoula en revenant vers un état de golem. Okay? Et le tout, c'est de savoir évoluer, de comprendre, d'étudier, en fait, notre temps. Ouvrez les yeux pour vous placer vous-même, même au niveau individuel. Où est-ce que vous vous trouvez dans le schéma que je suis en train de dessiner? Est-ce que vous faites partie de ces râleurs, mal dans leur peau? Ou est-ce que vous faites partie de ces gens qui sont quand même bien dans leur peau et qui disent « Baruch HaShem » Lo hakol tov aval ahov. Pas tout est bien, mais la plupart des choses sont bien, Baruch HaShem. On évolue, on essaie de... Tu manges, tu as une famille, tu as des enfants, tu as une femme, tu as des parents. Baruch HaShem, tu es en bonne santé, tu es en train d'avancer. Ton état est en train de fleurir et de grandir. C'est sûr qu'il y a des problèmes. Et alors, à chaque fois, tu vas river ta tête sur ces problèmes-là et tu vas oublier l'essentiel. Jamais tu pourras vivre. Jamais tu pourras vivre. Vous rappelez, c'est comme si l'exemple que je vous avais donné une fois, celui qui prépare son mariage. Il y a plein de problèmes quand on prépare un mariage, on est d'accord? La salle n'est pas comme je voulais, le serveur n'est pas comme ça, l'autre il n'est pas comme ci, l'autre il n'est pas comme ça, et il a augmenté le prix, et il m'a changé la date, et il m'a... Mais n'oublie pas que tu es en train de préparer un mariage. Si tu tombes dans la déprime de tous ces petits détails qui te cassent la vie, mais tu vas arriver au jour du mariage, comme à Tisha B'Av, phrase de Shalom. D'accord ? C'est pas le but. N'oublie pas que tu es en train de préparer une simcha. N'oubliez pas que nous sommes en train de préparer une Géoula, que nous sommes en train de vivre une Géoula. Ne tombez pas dans ce piège du moment, de l'instant. L'instantané tue. Et cet instantané, en fait, c'est un zoom, un gros plan sur un degré. C'est-à-dire, tout le reste est flou. Alors tu fais un gros plan sur un degré et tu tues les gens avec ce degré-là parce que tu veux les rendre amers. Et des gens tombent dans ce piège. Oh là là, tu as vu ce qui s'est passé encore, comment on va faire? Toute la journée, c'est pareil. Et tu peux vivre toute ta vie de cette manière-là. Kach bechaya uma, ainsi dans la vie de la nation. Nesiga ba'it yeshvut. On recule. Comment ça se fait que les gens qui ont construit l'État d'Israël, eux-mêmes ou leurs enfants, sont en train de faire des bêtises, de reculer des endroits qu'ils ont eux-mêmes conquis? Ah, ça nous rappelle ce papillon. Il mange, maintenant il est en train de jeûner, il est en train de se vider des mêmes endroits, des mêmes territoires que lui-même a pris. Bizarre, non? On n'a plus la même idéologie. Le sionisme, on parle déjà de post-sionisme. Vous savez ce que c'est un post? Pas un post radio. Post, ça veut dire que c'est fini. C'est fini. Pourquoi? Ben parce qu'on est en train de reculer, on n'a plus la même idéologie, qui c'est qui va aller maintenant habiter dans des yishuvim, on est bien mieux dans une ville, okay? Les kibbutzim, il n'y a plus d'idéologie, il n'y a plus rien, on n'a plus rien à faire de tout ça, moi j'ai envie de gagner ma vie, c'est fini, je vais monter un business, et ce qui m'intéresse c'est le chemin entre ma maison et mon bureau, okay? C'est tout. Et même s'il me reste une cravate, comme territoire, ça me suffit. Okay? Vous pouvez donner tout ce que vous voulez, Yehuda et Shomron, c'est où ça? Jamais j'y étais, moi. Pas besoin, moi, de ça. Koach haitpashtut nechlash. Au lieu de s'étendre, qu'est-ce qu'on fait? On se restreint. Ça veut dire que dans le village où j'habite, il y a 400 familles, c'est un demi-immeuble à Tel Aviv. C'est-à-dire que nous, on prend un terrain énorme, parce que chacun a sa maison avec son jardin. Et là-bas, tu fais une petite tour, et tout le village est dans cette tour. Extraordinaire, tu n'as même pas 50 mètres carrés. Ça veut dire, au lieu de s'élargir, on se restreint et on monte en relief, on monte vers le ciel. Problème. Au lieu d'acheter notre terre, d'investir sur la terre, on investit dans le ciel. C'est toujours une mentalité d'ailleurs. Yerida me'aret, c'est-à-dire des gens qui quittent le pays parce qu'ils ne supportent plus. C'est trop difficile de vivre ici. Trop difficile. Ils quittent le pays, ils se disent, mais attends, c'est des fous ici. C'est des malades. Ils nous mangent tout cru, ils sont trop forts pour nous. En France encore, je peux faire des affaires. Mais ici, ils sont trop forts, les mecs. Les Israéliens, ils sont trop forts pour moi. Meraglim. Ça, c'est la faute des explorateurs. Quand tu dis ce genre de mots que je viens de dire maintenant, c'est la faute des explorateurs. Ils n'ont rien dit de plus, les explorateurs. Ils ont dit, écoute, ces gens là-bas, ils sont trop forts pour nous. On ne peut pas, même Dieu, il ne peut rien faire avec eux. C'est ce qu'ils ont dit. Même lui ne peut rien. Ils sont trop forts, les mecs. Ils sont trop balèzes. Tu as sorti un stylo. Demain, il est déjà fabriqué en Chine. Les Israéliens, ils sont allés déjà le copier. Ils sont trop forts pour moi. Folie. Ça va trop vite. Dans n'importe quelle usine en Chine, tu trouves des Israéliens maintenant. Ils sont trop forts. Ils sont en train de chercher des nouvelles affaires à faire, des machins. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Des mecs de votre âge. Ils tournent dans toutes les usines pour trouver une combine. Ils achètent un petit peu de tout. Ils amènent ici. Ils achètent pas beaucoup. 5-6 articles de chaque. Ça leur coûte rien du tout. Ils amènent ici et ils le mettent en vente. Celui qui est bien vendu, il se dit, alors on en commande un conteneur. C'est tout. Et ils amènent des conteneurs entiers de ce même produit qui a déjà marché en petite quantité. Et hop, ça devient des millionnaires en quelques jours. Une folie, un truc, et toi tu te dis, mais alors, moi, je ne peux plus rien faire ici, on est en retard, ils ont pris trop d'avance sur nous. Ils ont tout compris, les mecs. Chacun son taf. Le problème, c'est que ça déprime des gens. Ok ? Qui c'est les Israéliens ? C'est toi ou eux ? Tu vois le problème ? Regarde le problème. C'est exactement ça le problème. C'est que vous considérez pas comme des Israéliens et vous vous dites, nous on est là, ils sont trop forts pour nous, ils vont nous manger tout cru. C'est eux les Israéliens. Nous on est des nouveaux Israéliens. Ça veut rien dire ça, rien. Un type qui vient maintenant du Mexique, au bout d'un an, c'est un Israélien, et toi qui as encore 20 ans ici, tu dis, je suis un ancien Olech Hadash. Je suis pas un Israélien. Tu es un olévatique, je suis toujours français, toute ma vie je vais rester français, on dirait qu'on t'a mis un tampon, Napoléon. Mais, alors, comment tu quittes ça? En commençant à changer la parole. Tu ne dois pas dire « eux » et « nous ». « Eux » c'est « nous ». Il n'y a pas « eux » et « nous ». Je suis israélien, tu es israélien à part entière, Nigmar. Tu comprends? Rentre dans le jeu. Fonds-toi dans la masse de ce peuple, c'est le tien, c'est pas une autre race dans laquelle tu es venu, tu n'as rien à voir. Au point qu'on est obligé de vous faire une petite chambre ici, au quatrième étage, les francophones. Pour ne pas qu'on vous mélange aux autres parce qu'ils vont vous manger. De temps en temps, il y en a un qui s'en va là-bas, il ne revient plus. Il l'a avalé. N'ayez pas peur, il ne devrait même pas exister cette chambre-là. Ces cours-là devraient être en bas, en hébreu, pour tout le monde. Mais bon, pour l'instant, vous êtes dans un cocon. Okay. Il faut tout doucement une petite évolution. Le golem, il recule, il revient, il est un petit peu sensible. Il y a une délicatesse, Ken. Vous vexez pour des petites choses, les autres. Et de quoi il se vexe? Je comprends même pas. C'est même pas la même mentalité, quoi. Ah, il m'a pas dit bonjour. Les mecs sont là, c'est déjà des guerriers et tout. Vous êtes encore dans des trucs du Moyen-Âge. Okay. Alors c'est sûr que c'est vrai, c'est important, parce que l'éducation est importante, mais il faut la porter. Il ne faut pas rester comme un malheureux, comme une victime, parce que quand tu es une victime, en face de toi, tu as toujours un bourreau. Et il va t'éclater. Okay. Comme disent les Chachamim, si tu te prends pour une serpillière, on va faire avec toi le ménage. Okay. Alors arrêtez de vous prendre pour des serpillères. Vous êtes des Israéliens à part entière, soyez forts. Et donc il y a des étapes où tout est en train de tomber. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on est plus fort. Les Arabes n'ont plus peur de nous. Les armées arabes maintenant ont levé la tête. Avant, ils nous craignaient. Vous entendez toutes ces paroles? Maintenant, on n'a plus aucun aucune force de dissuasion, on a perdu toute notre force. Ah, avant, on pouvait aller en TB faire des trucs, maintenant on est des nuls. Tout ça, ce sont des mots dangereux. Faites attention à tout ça. D'autant plus que c'est faux. C'est faux, archi faux. Le problème, c'est qu'on ne sait pas les choses, c'est tout. Ha'am olech umemaet et chayav et otzmato. C'est les gens qui parlent comme ça, qui rentrent dans un système de peur et d'auto-destruction. Et tout doucement, ils s'amenuisent eux-mêmes. Et c'est fini, quoi. Ils n'ont même plus de valeur à leurs propres yeux. Comment tu veux qu'ils aient de la valeur aux yeux des autres? Kemo ha'golem. Donc ça devient comme le golem. Ken am Israël osé zot bemo yadav. Le golem, il se détruit apparemment lui-même, parce qu'il n'y a personne. Eh bien, le peuple d'Israël est en train de se causer ce genre de situation lui-même. Alors, est-ce qu'on est foutu ou pas?
Jamais.
Hein? Jamais. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur de ce genre de phénomène, il ne faut pas avoir peur de ce genre de situation. Il y a des périodes comme ça, dans l'avènement messianique, où les choses vont avoir l'impression de tout tomber, de tout se décomposer complètement. Mais il faut avoir une emouna pshuta dans Akadosh Baruch Hu, que c'est lui qui dirige l'histoire et qu'aucun instant ne sort de son contrôle. Alors même si tu vois que les gens, les mêmes qui ont construit, c'est eux qui détruisent, ceux qui ont conquis, c'est ceux qui donnent à nos ennemis ce qu'ils ont conquis, tu te dis, mais alors le monde est à l'envers, c'est fini, on est mort, on est foutu, ils ont gagné les mecs. Pas du tout. Baloutot tvia yesh la zachal. Cette larve, elle développe des baloutot. Comment on dit baloutot en français? Des ganglions, okay? Des glandes de tvia, par laquelle il y a des fils à tisser, comme des tissages, comme l'araignée. Veut tovel ochutim dakim. Et il est en train de sortir de lui des fils très 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 fins, miniatures, que delimtzo et aderech el amakom amazon shelo bechazara. Ça veut dire qu'il est en train de se faire des canaux très loin pour rechercher la nourriture de là où il est avec ses canaux. Ça veut dire comme des pailles miniatures par lesquelles passe la nourriture sans que lui ne bouge. Et il se fait un nid. Les istater betoro dans lequel il se cache. Donc toute sa sécurité maintenant et toute sa nourriture, donc toute son économie, tiennent sur quoi? Bien sûr, ces fils qui viennent de tisser, des relations un petit peu à droite à gauche internationales avec lesquelles on peut manger. C'est avec ça que Israël, à un moment donné dans son évolution vers la Géoula, s'est créé un système de liens avec quelques nations, avec quelques degrés, avec quelques eaux, avec quelques maïs et tomates et concombres, en tout genre, et on a l'impression que c'est fini, on va vivoter avec ce genre de petites choses-là. Baïd Galmout, hu kovel atzmo el haetz mimeno hu ochel. Dans cette partie-là, le papillon va se coller, il va s'attacher en fait, littéralement, avec une corde, à l'arbre duquel il est en train de manger. Ce qu'on appelle Pundekai. Qu'est-ce que c'est Pundekai en français? Pundekai. M. Pundekait. Nous avons des mamans qui portent le bébé d'une autre femme. Des mères porteuses. Donc en réalité, il devient Be'agdara Tamada, au niveau de la science, un Pundekai. Ça veut dire qu'il est collé à l'arbre duquel il est en train de se nourrir. Et cet arbre devient pour lui, en fait, l'essence de sa vie, l'essentiel de sa vie. Il ne voit rien que cet arbre. Dans notre exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Que la société israélienne s'est collée à certaines valeurs et ne les lâche pas. Et toi, tu viens comme un religieux tout frais et tu te dis, mais jusqu'à quand ça va continuer ça? C'est ça le peuple d'Israël? Pundekai, c'est en fait se servir d'un système, rentrer dans le ventre d'une autre et grandir là-bas. Comme un parasite en fait. Il profite d'un endroit, il ne le quitte plus. Il s'est attaché à cet endroit-là et il ne le lâche plus. Et toi, tu te poses des questions. Comment on va sortir de cette situation? Et là, ça continue. Regardez, je n'ai pas rajouté un mot à ce qui se passe dans la science. Ça veut dire que ça fait déjà 5 fois qu'il a changé de peau, qu'il revient. Maintenant, nous sommes dans la sixième fois, encore une fois. Il est en train de rechanger de peau. Alors, le type qui ne comprend pas, il est en train de se dire, mais Akadosh Baruch Hu, tu t'es planté là, il n'y a rien qui va sortir. Okay? Il n'y a rien qui va sortir, c'est une larve sans arrêt, tu es en train de te moquer de moi, il change de peau sans arrêt, il change de peau sans arrêt, il est où le Mashiach? Vechozer l'Eraot Kebetsa. Non seulement il a enlevé sa nouvelle peau, maintenant la sixième, mais qu'est-ce qu'il y a en dessous? Un œuf. Tu as commencé par un œuf, tu as fait toute une évolution pour redevenir un œuf. C'est exactement ce qui se passe. La même chose. Tu peux te poser les mêmes questions. Et vous avez entendu des gens qui parlent comme ça. Et vous entendez des gens qui parlent comme ça. À quoi ça sert qu'on soit venu? On est redevenu pire qu'avant. On est revenu à zéro. Un œuf. Kebetrilato comme au début. Et la chercha, vous tolez à tzmolaetz. Alors quelle est la différence avec l'œuf qu'il y avait avant? Tout simplement, maintenant, il est accroché à un arbre. Sympa. Comment il est accroché à cet arbre? Ksherosho le mata veznavo le mala. La tête en bas et la queue en haut. Ça veut dire qu'il est à l'envers dans l'arbre maintenant. À quoi ça correspond? Alors vous comprenez, Ken, dans notre parallèle toujours, c'est que non seulement on est redevenu un œuf, mais maintenant c'est un œuf à l'envers, avec la tête en bas. Ça veut dire que le monde est à l'envers, je n'en peux plus, je suis fatigué de ce processus, il est trop long pour moi. Moi je croyais que la Géoula c'était Mashiach now, et tu es en train de me faire Mashiach avec un... Ken, tu es en train de me moudre. Jusqu'à quand? Ken. Nahon, le bébé avant qu'il naisse, mais ça il faut le savoir. Là ça fait déjà 5 fois que tu attends, la caméra elle est en train de tourner, toi tu es en train de tourner, Ken, tu en as marre de cette larve, et tu te dis jamais il va sortir un papillon, ça va être une 10e fois, et une 11e fois, une 12e fois, ça recommence toujours la même chose. Ken? Never ending story, c'est une histoire sans fin. Afichat sidrea difuyot, qu'est-ce que ça veut dire la tête en bas et la queue en haut? Un renversement de quoi? Des valeurs. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire ce qui est normalement très important, eh bien, le gouvernement israélien, il va le mettre au tiroir. Et des petits trucs de rien du tout, il va en faire une... l'idée principale. Ça, tu es en train de parler déjà comme quelqu'un qui comprend le cours. Nous sommes en train de parler pour les gens qui ne comprennent pas ce qui se passe. Ok? Je suis d'accord avec toi, moi aussi je dis que c'est nécessaire parce que j'ai déjà écrit le cours. Mais là nous sommes en train de faire face à des gens qui sont dans la déprime totale. Et il faut leur dire, mesdames et messieurs, nous sommes dans le processus de la Géoula bien avancé. Arrêtez de mettre en question à chaque fois le processus tout entier parce que vous ne comprenez pas dans votre système. Parce qu'effectivement, c'est un système qui trompe énormément. Et ça peut vous embrouiller la tête. Et effectivement, toutes les valeurs qui devaient être essentielles sont mises en bas. Dans les tiroirs, dans les caves. Et les petites bagatelles sont devenues les choses essentielles. Il y a de quoi devenir fou. On vous comprend, mesdames et messieurs. Mais ça fait partie du processus et on va le voir. Ken? Pourquoi ça ne se fait pas plus facilement? Parce que c'est toujours la différence entre ceux qui sont sages dans la Torah et qui sont en réalité les lampadaires de la nation. Comment s'appellent les tzadikim? Les yeux de la nation. Il faut que la nation ait des yeux. Mais si la nation n'a pas Dieu, c'est un jeu de mots. Alors il y a un problème. Il y a un problème. Eh bien, les tzadikim de la génération vont être les yeux de la nation. Ils devront, eux, enseigner ce genre de shiurim, parce que c'est très important. C'est pour ça que je vous ai déjà dit mille fois, vous êtes dans la yeshiva, qui a compris ce degré-là. C'est la seule yeshiva mondiale, la plus grande yeshiva du monde qui a compris ce degré-là. Et c'est ce que on essaye de vous faire passer ici. Par l'éducation. C'est une véritable éducation. De la même manière que les gens qui sont venus ici sont venus avec des bagages de Torah qu'ils avaient peut-être à Paris ou à Strasbourg, ou en Suisse, et tout doucement, pas comme on va vous dire on vous a fait un lavage de cerveau, oui, on vous a lavé, de 2000 ans de Galout, de Vadaï. Mais pour vous reconstruire avec la Torah d'Eretz Israël, c'est pas un main lavage. La Gemara elle-même le dit. Il fallait que les grands d'Israël jeûnent pendant 100 jours pour oublier leur Talmud qu'ils avaient étudié en Chutz Laaretz, en Babylone. Pour comprendre le Talmud d'Eretz Israël. Tu crois que c'est comme ça? Tu passes d'une yeshiva à une autre, juste à changer de chaise? Tu viens avec la même étiquette, tu as enlevé là-bas, tu la colles ici? Toute ta tête doit faire un switch. Ça, c'est de l'éducation. Et cette éducation, vous l'avez maintenant. Peut-être vous ne vous rendez pas compte. Mais allez parler maintenant de Torah avec quelqu'un qui n'a pas étudié ce genre de Torah. Mais vous êtes le ciel et la terre. Ils ne savent même pas de quoi vous parlez. Vous êtes des martiens. Ok? Vous êtes devenus des Israéliens. Donc, Afichat Sidra Adifuyot, Lorak Betsurato Chitsonit Chalanesiga. Donc, ce n'est pas seulement que le recul s'est fait extérieurement parlant. Et la gamme bifnim, même dedans, tout a changé. Vesham aeres gadol odioter. Et à l'intérieur, la destruction est encore plus grande. Pourquoi? Matril ta'ali chanigra histolisa. Je vous utilise les termes de la science. Ça s'appelle l'histolise maintenant. Qu'est-ce qui se passe? It parkut arekamot. Tout le processus intérieur des fibres de ce papillon qui n'en est pas un, mais là, on est encore loin du papillon, il est en train de se décomposer. Complètement, totalement. Ça veut dire la science est en train d'avoir peur maintenant lorsqu'elle filme ce processus. A kol neheras aliyedei chumtzot. Et par quoi on est en train de détruire tout ça? Chumtza. Qu'est-ce que c'est chumtzot? Des acides. Ça veut dire qu'il y a une afracha. On va sortir des acides. La larve elle-même va sortir des acides qui vont l'auto-détruire. Cette larve sera détruite dans les 10 secondes. Bien. Vehormonim, il y a des hormones chez ma frisha golem mitocho. De l'intérieur, il est en train de sortir tous ces sucres, tous ces acides, il est en train de s'auto-détruire. Bemo yadav, de ses propres mains. Alors imaginez-vous les Israéliens qui font ça. Nous sortons des sucres, nous sortons des acides et nous sommes en train de nous auto-détruire. On donne Gush Katif. On donne Yehuda Veshomron, on donne Yericho, on donne Hevron. Mais jusqu'où on va aller? Tu veux Jérusalem? Oh, allez, d'accord, je vais te donner la partie d'en haut. Moi, je vais peut-être prendre la partie d'en bas si je suis gentil. Tu me permettras, s'il te plaît. Et effectivement, ça fait très peur. Et la dernière fois que j'étais dans un truc journalistique, dans une radio en direct, okay, il y a un philosophe de France qui me dit je ne comprends pas, vous n'êtes pas du tout réaliste puisque vous n'avez pas crainte pour Jérusalem. Je lui dis, c'est vous qui n'êtes pas réaliste. Ceux qui sont réalistes ici sont des malades. Il faut être dans l'irréalisme pour être le véritable réaliste, parce que Eretz Israël n'est pas réaliste comme vous l'entendez. Donc en réalité, le seul réaliste de cette pièce, c'est moi, avec mes airs de quelqu'un qui plane. Et vous, avec les pieds par terre, vous êtes complètement dans le planage. Expliquez-moi. Eh bien, j'ai été obligé de lui expliquer. Ce processus est un processus de délivrance, mais moi, j'ai foi dans cette délivrance-là. Je sais qu'on ne recule plus. Je sais qu'on avance, et malgré les apparences qui sont difficiles, et je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, quelqu'un m'a posé la question, est-ce que j'attends que ça se passe? Non. Je prends mon arme. S'il y a quelqu'un qui fait un problème quelque part, il faut le renvoyer vite chez le patron. Ça veut dire, je ne vais pas faire un travail de, oui, il paraît qu'on a étudié, que c'est un processus naturel. Attendons. Non. Non. Tu dois agir, mais tu dois avoir la foi que ça va marcher, même quand c'est difficile. Et c'est difficile. Ou qu'on veut l'état de ce monde, donc on est en train de nous mettre nous-mêmes les menottes dans les mains. D'accord ? C'est-à-dire, Israël se ligote elle-même. Elle se coince dans plein d'embrouilles. À chaque fois qu'il se passe un truc, tout le monde se dit, Israël est tombé dans le piège de Marmara, elles se sont ligotées les mains, eux-mêmes, ils savent plus quoi faire, maintenant il y a un nouveau bateau qui est en train d'arriver, avec peut-être un terroriste à bord, qui veut se faire sauter. Ben, on va l'aider. Et Atzmauto veores Atzmo leva, donc il veut plus la Atzmaout, il veut plus rien, il a envie de changer, même j'ai entendu des gens qui veulent changer la Megillat Atzmaout, qui veulent changer la Tikva, ils veulent mettre une partie pour les Palestiniens dans la Tikva. Alors le type qui regarde ça de loin, il te dit, dis-moi, c'est ça l'État d'Israël, arrêtez avec votre Geoula, c'est sur ça que tu dis, allez le jour de Yom Atzmaout. Franchement. Et toi, qu'est-ce que si tu lui réponds oui, il va te dire, mais tu es un malade. Okay? Et pourtant. Alors la chose est très compliquée. Elle est très complexe. Nous ne sommes pas des soulards, nous ne sommes pas des aveugles. On sait que nous sommes dans une situation très complexe. La seule différence, c'est qu'on sait qu'on va vers la vie. Ah, le Rav Kook a donné un exemple. Un jour, on est venu lui poser, mais pourquoi je me monte en Israël? Les Juifs en diaspora souffrent. Et les Juifs en Israël souffrent. Souffrons ensemble. Vous là-bas, nous ici, nous sommes unis par la souffrance. Pourquoi j'ai besoin de venir en Israël pour souffrir avec les autres? J'en ai assez avec ma souffrance à moi ici. C'est les mêmes Juifs là-bas ici. Le Rav Kook lui a dit, tu as raison. Ça me rappelle l'histoire de deux femmes qui poussaient des cris dans une chambre d'hôpital. Les deux souffraient. Seulement, il y avait une qui était en train d'accoucher et l'autre était en train de mourir. Il y avait une qui était agonisante et une qui était en salle d'accouchement. Alors il lui pose la question, est-ce que c'est pareil? Les deux poussent des cris, les deux souffrent. Ah, c'est pas tout à fait pareil. Il y a une qui souffre, mais elle va donner la vie. Dans 5 minutes, elle est sortie de chez elle, ils vont faire la fête. Et l'autre, elle est en train de mourir, elle est en train de pousser les mêmes cris que l'autre. Mais dans 5 minutes, ça va être le silence total. Tu comprends la différence? Lui a dit le Rav Kook, c'est exactement la même chose. Le judaïsme de l'exil est un judaïsme agonisant. Alors poussez des cris, c'est vrai, mais vous êtes en train de vous éteindre. Alors que le judaïsme en Eretz Israël est un judaïsme qui va donner la vie. Et nous souffrons pour donner la vie, mais nous donnons la vie. Dans 8 jours, il y aura une Brit Mila. On va faire la Simcha. Dans 13 ans, on va faire la Bar Mitzvah. Et ce garçon va se marier ou cette fille. Vous comprenez la différence? Mais quelqu'un qui ne comprend pas la différence, il rentre dans la chambre d'hôpital, il voit ces deux femmes en train de pousser des hurlements. Il se dit, oulala, c'est quoi ce truc-là? Hachem Ishmor. Okay? Hachem Ishmor pour celle-là, mais pour l'autre. Tu devrais dire, Alvay Aleno. Si Dieu veut chez nous. Comment tu dis, si Dieu veut chez nous, une femme qui souffre? Non, je parlais de l'accouchement. La souffrance, malheureusement, c'est un passage. Mais ne t'arrête pas là. La femme qui va accoucher, elle ne va pas pour souffrir, elle va pour accoucher. D'accord ? Si on l'arrête en plein milieu de la route et qu'elle a des contractions et que le flic lui dit « Où vous allez, madame ?» Il dit « Je vais souffrir. » Mais non, elle va lui dire « Je vais accoucher, monsieur. » Elle ne lui dit pas « Je vais souffrir. » Mais vous souffrez, oui, je souffre. Mais je vais accoucher. Je vais donner de la vie. C'est exactement la même chose. Ne tombez pas dans le piège de la souffrance momentanée, instantanée, celle que vous voyez maintenant ici. Regardez ce qui va se passer après. Vous voyez déjà que ça avance. Il y a des gens qui ont déjà les yeux ouverts, qui se disent, mais attends, on a déjà vu comment ça a bien avancé depuis que je suis là. Pourquoi tu veux que ça s'arrête? Au contraire, ça me multiplie, c'est encore plus. Baruch HaShem. Vous savez que le Gaon de Vilna nous donne, un des élèves du Gaon de Vilna nous donne la date de la venue du messianisme. Vous savez ça? Non? Il nous dit que c'est dans les lettres du mot Adam. Aleph Dalet Mem. Extraordinaire, comment? Eh bien, Aleph c'est Adam, Dalet c'est David, et Mem c'est Mashiach. Ah, c'est sympa. Bon, c'est un jeu de mots sympathique. Il dit non! Le temps qui sera écoulé entre Aleph, Adam et David, c'est le même temps entre David et Mashiach. C'est facile. On sait exactement quand est-ce que David Amelech est né. Donc tu multiplies depuis Adam jusqu'à David, multiplié par deux, c'est le temps messianique. Oui ou non? Alors quelle année ça tombe? 5708, 1948. Extraordinaire, non? Ça veut dire que en 5708, divisé par deux, c'est le jour de la naissance de David Améler. Donc multiplié par deux, c'est le jour de la délivrance. Donc la délivrance d'Israël a commencé réellement en 1948, 5708. Elle est belle ou elle n'est pas belle? C'est tout simplement le règlement Adam. Alors il y a des gens qui te disent, ouais, tu joues avec les mots. Toujours ils vont te dire. En tout cas, nous savons qu'Akadosh Baruch Hu s'est rappelé de sa nation, qui nous a réveillés, que nous sommes là, qu'il n'y a jamais eu autant d'études de Torah, que Baruch Hashem, notre terre, fournit et donne à ses habitants de quoi manger, qu'il y a de beaux fruits dans les marchés, que les gens de plus en plus deviennent heureux et arrivent, malgré tout ce qui se passe, les gens arrivent tous les jours, il y a des avions qui atterrissent. Et Baruch Hashem, de plus en plus, nous sommes en train de construire et de nous fortifier dans tous les domaines économiques, militaires, nationaux. Et Baruch Hashem, bientôt aussi, nous allons avoir cette grande lumière messianique qui va apparaître clairement. Parce que nous sommes en train de préparer le terrain. Alors soyez parmi ceux qui sont utiles et qui sont actifs dans cette préparation et pas seulement des spectateurs qui voient la Géoula à la télé. Tiens, Toda Rabba.